le point essentiel de notre premier entretien est de voir que la vraie sagesse, la sagesse des tout petits, elle est essentiellement en contact d'esprit à esprit, de substance à substance, comme pour reprendre l'expression de saint Jean de la Croix, c'est-à-dire toucher de Dieu dans son mystère au-delà de toute connaissance notionnelle. Donc il peut être vécu par des personnes qui n'ont pas l'usage de la raison, comme on dit. Je vous ai amené aussi un petit livre écrit par Sophie Chevillard, Philippine, la force d'une vie fragile, qui est le témoignage d'une mère d'une enfant polyhandicapée, et qui témoigne de cette vie intérieure d'une personne qui n'a en fait pas de cerveau et qui a une profonde vie intérieure qui se manifeste de différentes manières dans sa relation avec sa mère. Tout vient du cœur. Du cœur profond, là où se forment les vertus théologales. Et d'une manière directe, sans passer par les facultés spirituelles que sont l'intelligence intellectuelle, si je puis dire, enfin, sans passer par l'intelligence raisonnante, puisqu'il n'y a pas la possibilité de l'usage de la raison. Donc, ce que j'ai dit là, il nous fait comprendre aussi que la contemplation, pour parler d'une autre manière de la sagesse, contemplation, quand elle est dans, je dirais, pleinement contemplative, elle est en même temps unitive. Vous trouvez chez Jean de la Croix l'expression contemplation unitive. Belle expression, hein, qui nous fait comprendre que connaissance et communion, c'est tout un, en tout cas dans le langage biblique, notamment chez saint Jean. Puisque saint Jean dit, hein, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, le Père, hein, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est Jean 17, 3. Donc la vie, c'est qu'ils te connaissent. La connaissance devient vie, pourquoi? Parce qu'elle est communion, et donc aussi participation à la vie de celui que je connais, donc intimement, dans un contact. Si la connaissance n'était pas contact, elle ne serait pas vie. Donc si vous voulez, la connaissance contemplative, c'est une union qui nous fait participer donc à la vie intime de celui que nous connaissons, et donc par là même nous transforme, et donc aussi on peut ici reprendre la question de l'union transformante. Vous voyez, chez les mystiques, cette union transformante se fait par mode de connaissance, pour reprendre des expressions classiques. Je vois, cette vision me transforme. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Bon, ultimement, ça s'achève dans la vision béatifiante. La vision béatifique, hein, qui est la définition du ciel. Nous le verrons face à face. Et donc, on aboutit par là à la notion de divinisation. Transformation totale par une vision totale. Voyez, il faut arriver progressivement à unir des termes qui en fait disent la même réalité. Alors, parfois on parle de vie éternelle, d'autres fois on parle de vision de Dieu, d'autres fois on parle de connaissance, d'autres fois on parle de communion. Et tout ça, ça dit le même mystère, la même réalité. Ce qui change, c'est les degrés. Ça, c'est les degrés différents. Donc, si on réfléchit à ce que c'est profondément la sagesse, on s'aperçoit que la sagesse correspond en fait au désir spontané de l'amour. Quand j'aime quelqu'un, je désire m'unir à lui. L'amour recherche l'union. Saint Thomas d'Aquin reprend l'expression de Denis l'Aréopagite pour définir l'amour comme une force unitive. L'amour trouve son achèvement dans l'union, et donc l'amour désire la connaissance. Quand on aime quelqu'un, on cherche à le voir. Et ça revient ici à une réalité toute simple qu'on expérimente entre nous humains. Mais quand on est dans une relation d'amour avec Dieu, une relation amoureuse, quand on l'aime d'un amour véritable, au sens, l'entend Benoît XVI dans son encyclique Deus Caritas Est, c'est-à-dire un amour qui comprend toute la force de la passion, hein. La passion, c'est-à-dire qu'on est touché par l'autre, on est touché par la beauté de l'autre, par la bonté de l'autre, et on désire répondre à l'amour par l'amour. Nous avons l'expression de cette vie amoureuse qui recherche la connaissance dans la relation à Dieu, dans l'évangile de Marthe et Marie. Marie est la figure de l'âme qui est dans une relation amoureuse avec Dieu, et elle écoute sa parole, elle écoute la parole de Dieu pour pouvoir mieux connaître Dieu et mieux s'unir à lui. C'est à partir de l'évangile de Marthe et Marie que l'Église a réfléchi pendant des siècles sur la vie contemplative, hein, comme étant la meilleure part, puisqu'elle nous fait anticiper la joie du ciel. Ici, je prononce le nom de joie, parce que la joie, c'est le premier fruit de l'union. Et donc, si on regarde dans les pères de l'Église, où le but de la vie chrétienne, c'est la béatitude, mais ils disent aussi bien que c'est l'acquisition de la sagesse. Ce que l'on retrouve dans tout l'Ancien Testament, dans les textes sapientiaux, l'acquisition de la sagesse, comme étant finalement le vrai but de notre cheminement terrestre. Et en même temps, si on réfléchit, la vie chrétienne, si on ne dit que ça, on sent bien qu'il y a quelque chose qui manque. C'est comme nous le savons bien, cette relation amoureuse au sens, avec Dieu, au sens où on recherche sa présence, on contemple son visage, est inséparable d'une relation de service, d'un amour qui cherche le bien de l'autre, qui cherche le bien de Dieu d'abord. Plaisir au bon Dieu. Vous voyez, à ce sujet-là, je repense très souvent à l'expression de la petite Thérèse, disant à sa sœur, qui était donc rentrée au Carmel, après elle, Céline, Cécile, Céline, elle lui dit, nous ne sommes pas là pour être des saintes, entre guillemets, mais pour faire plaisir au bon Dieu. Elle aurait pu tout aussi bien dire, nous ne sommes pas là pour devenir de grandes contemplatives, mais pour faire plaisir au bon Dieu. Alors ici, on a tout à fait l'impression d'un tout autre registre. Ici, c'est pas moi qui cherche à m'unir à Dieu amoureusement, mais je cherche à faire plaisir à Dieu. Je m'oublie moi-même, et je cherche simplement à faire sa volonté. Et, alors ici, il y a, en complément de l'image de l'âme comme épouse, nous avons, qui s'est présent dans le Cantique des Cantiques, hein, où l'âme, de fait recherche à voir le bien-aimé, à le toucher, nous avons une autre image, c'est celle du serviteur, qui est omniprésente dans l'Écriture, plus encore même que l'image de l'épouse. Dieu nous rappelle constamment que nous sommes aussi serviteurs, le serviteur il cherche à faire la volonté de son maître dans l'oubli de lui-même. Alors, Dieu est un époux et il est un maître. Il est les deux. Et Marie, qui est le modèle absolu de l'épouse face à Dieu, quand l'ange lui apparaît, elle répond : je suis la servante du Seigneur. C'est comme si Dieu disait : tu es mon épouse, et elle répond : je suis ta servante. Tu peux m'appeler épouse, mais moi je m'appelle servante. Et les deux ne sont pas contradictoires, évidemment. Et si vous réfléchissez bien, il y a une troisième notion, troisième terme, réalité, disons plutôt, entre épouse et servante, nous sommes aussi enfants par rapport à Dieu. L'enfant, il cherche à être proche de son père, mais il cherche aussi à faire plaisir à son père. Il y a à la fois une relation d'amour et en même temps une relation d'obéissance. L'obéissance filiale. Je pense que si on garde ces trois images, épouse, enfant, serviteur, vous voyez, on a à peu près le cadre dans lequel se situe donc notre relation à Dieu. Et qui nous permet en même temps de mieux comprendre la place de la sagesse, de la contemplation et le chemin qui y conduit. Dans notre relation à Dieu, qu'est-ce qui est premier ? L'attitude du serviteur ou l'attitude de l'épouse ? Qu'est-ce qui est premier ? La recherche de l'union à Dieu, la recherche de faire sa volonté parce qu'il est Dieu, parce que Dieu est Dieu, et que nous l'adorons. C'est difficile hein, de répondre. Oui, on pourrait dire que Dieu est Dieu et que face à Dieu, nous sommes ses créatures et qu'il n'y a qu'une seule attitude, c'est la soumission de la créature face à son créateur. Inch'Allah, si Dieu veut. Et les chrétiens arabes disent aussi Inch'Allah. D'ailleurs, dans le christianisme, on a souvent dit « si Dieu veut, si Dieu veut ». Tout est relatif à cette volonté divine. Mais vous comprenez en même temps que même au commencement d'un chemin, si simplement je suis dans l'adhésion à l'existence de Dieu créateur, comme l'unique absolu de ma vie, mais que je ne vis pas une relation d'amour au sens que ce Dieu ne me touche pas mon cœur, touché en profondeur par lui, je risque d'avoir de rester donc au niveau d'une religion de devoir, sèche, sans élan profond, sans élan amoureux. À ce moment-là, effectivement, dans une religion de devoir, on pourrait dire qu'on pense à toutes les personnes comme une religion de tradition, hein, comme des convictions chrétiennes qui, de génération en génération, ont su garder ces convictions. Dans une religion de devoir, pas beaucoup de place pour la contemplation. Et c'est un fait que si on regarde le 19e siècle, puis le 18e aussi, au moment où, sous l'influence du jansénisme, le christianisme tend à devenir de plus en plus moralisant et de moins en moins mystique, eh bien, cette notion de devoir, aidée par la philosophie kantienne, l'impératif catégorique, il faut, notion de devoir qui prend le devant, et on ne voit plus tellement bien le pourquoi d'une vie contemplative. 18e siècle, siècle du rationalisme, eh bien, les monastères se vident.
C'est ça que je demande d'abord.
que sa volonté, pas la mienne, se fasse. Dans le Notre Père, Jésus nous apprend à nous oublier nous-mêmes. C'est pour ça que le but de la vie chrétienne, c'est pas seulement la vie éternelle comme connaissance de Dieu, mais le but de la vie chrétienne, c'est aussi le règne de Dieu. C'est-à-dire que Dieu réalise ce qu'il veut, c'est-à-dire régner, être reconnu, que sa volonté et son désir s'accomplissent. Le désir de Dieu, c'est que nous ayons la vie éternelle. Le désir de Dieu, c'est notre bonheur. Alors, nous désirons que la volonté de Dieu, que le désir de Dieu se fasse, et Dieu nous répond, mais mon désir, c'est que tu sois heureux. Alors, nous disons, mais non, mon Dieu, de toute façon, moi, je me perds pour toi, je m'oublie, il n'y a que toi qui compte, et Dieu dit, ben oui, moi aussi, je m'oublie, je me perds pour toi, et donc, c'est à qui aimera l'autre le mieux, mais c'est un amour extatique. Extase des deux côtés. Dieu s'est perdu pour nous et nous nous perdons pour lui. Mais on pourrait dire que c'est l'amour fou de Dieu qui est allé jusqu'à donner sa vie pour nous sur la croix. Il a pris cher pour pouvoir donner sa vie pour nous sur la croix, qui attire un amour fou de notre côté. L'expression de Jean-Paul II, aimer Dieu jusqu'à la vraie folie du cœur, jusqu'à la vraie folie du cœur qui faisait dire à Sainte Thérèse d'Avila qu'elle serait prête à suivre Jésus pour faire sa volonté jusqu'en enfer. Manifestant que son désir de rester fidèle au bien-aimé dépassait son désir du bonheur.
Par rapport à la connaissance,
ce danger de rechercher la connaissance pour elle-même. Mais dès qu'on est dans la connaissance pour elle-même, en fait, on est à côté de ce contact dont j'ai parlé, ce contact direct. On est dans la connaissance qui arrive à saisir quelque chose de compréhensible, qui nous nourrit, parce qu'on aime tous bien comprendre les choses. Et déjà, avoir une bonne idée, une idée claire de ce que la sagesse, ça me rappelle quelqu'un qui me disait, moi je voudrais savoir comment aimer, alors dis-moi comment on peut aimer, je voudrais savoir. Oui, mais il y a des choses qui ne seront jamais du nombre d'un savoir que l'on puisse posséder. Et la connaissance contemplative au sens fort du terme, on ne pourra jamais en faire un trésor que l'on possède. Puisqu'elle ne fait qu'un avec une relation d'amour, de recherche de Dieu, qui suppose elle-même que je m'oublie moi-même et que je ne recherche rien d'autre que Dieu. Donc, ce n'est pas en cherchant la sagesse qu'on la trouve, d'une certaine manière, mais c'est en cherchant Dieu. C'est ce que je veux dire. Et alors, on voit cette possibilité chez des personnes qui ont plutôt des facilités intellectuelles de ne pas rechercher la contemplation unitive, mais je dirais plutôt une contemplation spéculative, une contemplation théologique, une contemplation plus marquée par la réflexion intellectuelle, qui fait qu'on a des lumières. Oui, on a des belles lumières sur la vie chrétienne. On a des lumières sur la sagesse aussi. On comprend des choses. Et puis on prend goût à tout ça. On se complète dedans. Et on oublie Dieu. Pensez aussi à Proverbe 26:12. Tu vois un homme sage à ses propres yeux, il y a plus à espérer d'un insensé. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Jérémie 9:21. Qui précise ensuite que si on veut se glorifier, qu'on se glorifie de connaître Dieu. voyez, ici, la sagesse est distinguée de la connaissance de Dieu parce que ce serait la sagesse pour elle-même. La connaissance pour elle-même. Ici, qui se vérifie de connaître Dieu au sens d'être uni à Dieu. Pas de sa, mais pas de sa connaissance. Alors, voyez le danger. Je commence, par exemple, à lire l'Écriture dans une sincère recherche de Dieu, pour mieux le connaître en vérité. Et puis je prends goût à l'exégèse. Je commence à acheter des livres un peu coûteux, mais très intéressants. Et hop, ce désir de la sagesse qui pouvait être authentique au départ dévie. Ensuite, je me complais dans cette acquisition de connaissances, et même je peux finir par être sage à mes propres yeux, qui est la fin de tout. C'est Apocalypse Now. Sage à ses propres yeux. Pourquoi c'est la fin de tout? Parce que c'est l'orgueil intellectuel. Et avec l'orgueil intellectuel, il y a l'aveuglement le plus grand. Parce qu'il n'y a rien qui aveugle plus que l'orgueil. Et donc, je peux, vous voyez, m'élever jusqu'à un certain degré de connaissance, mais de connaissance, je dirais, qui a une certaine profondeur, hein, théologique, vous voyez. Et je me complais, chute, c'est la chute des anges, le schisme spirituel des anges, c'est l'orgueil de l'intelligence. Donc, mieux vaut un insensé qu'un homme qui est sage à ses propres yeux, qu'un homme sage qui se regarde lui-même, parce qu'il a perdu toute sa sagesse. Mais non, c'est même une perversion de sa sagesse. Vaut mieux un paysan du Danube, comme disent certains, vous voyez. Vaut mieux que quelqu'un de très rustre, hein, mais les paysans en réalité ne sont pas rustres, ils peuvent avoir une profonde intelligence du cœur. Vaut mieux un ignorant, on va dire des choses, vous voyez, un ignorant que quelqu'un qui a une connaissance, même des connaissances très, vous voyez, très, très fines, très subtiles, mais qui se complète de tout. Mon Dieu se complète en Dieu. Au lieu que son chemin d'approfondissement de la connaissance le conduise à contempler Dieu, il se contemple lui-même. Il a tout raté. Il a tout faux. Ça vous explique aussi qu'il y a des grands théologiens qui puissent finir comme des grands hérétiques. Je ne veux pas juger Luther, mais c'était un grand théologien, mais il a fini par dire des choses. C'est vraiment, je dirais, moins qu'on puisse dire, excessif. Bon, pas juger si c'était l'orgueil ou autre chose. Mais malgré tout, on est frappé de voir que, comme on dit, la perversion du meilleur est le pire. Vous savez que dans la Révolution française, les enragés, c'était des prêtres, pour la plupart. Connaissance théologique qui se pervertit. Actuellement, moyennant l'orgueil. Tu es béni, Père, d'avoir caché ça aux sages et aux intelligents, d'avoir révélé aux tout petits. Je remarque une chose, c'est que les chrétiens qui tombent dans l'intellectualisme ne sont pas nourris par Dieu. Parce qu'on est vraiment nourri quand on touche Dieu. Je suppose la vraie contemplation. Comme ils ne sont pas vraiment nourris par Dieu, habituellement, les intellos, comme on peut dire, hein, parce que là, c'est les intellos. Mais il y a des intellos qui se cachent, qui s'ignorent. Eh bien, les pauvres intellos, ils ont habituellement une double vie. Ils ont en même temps une vie. Ils se rattrapent sur tout le terrain, puisqu'ils n'ont pas de relation amoureuse avec Dieu, c'est desséché par l'intellect. Jupiter s'est marié. Il a enlevé son habit religieux, quitté la vie contemplative, s'est marié. Il a décidé que la vie contemplative n'avait plus de sens. Il ne fallait plus faire de vie religieuse. Il n'y a que la vraie contemplation qui vient. C'est pas pour vous décourager de suivre les cours, mais mettez pas votre cœur dans ce que vous apprenez. Moi, je vous donne des pistes pour éventuellement vous donner envie de faire le chemin. Mais c'est pas un enseignement comme le mien qui donne la sagesse. La sagesse, c'est d'aimer Dieu, de chercher Dieu, puis de la désirer, cette sagesse, sincèrement, en comprenant ce qu'elle est vraiment, puis au contraire de se dépouiller des fausses sagesses. J'aurais pu citer le théologien Boff, excusez-moi de citer des mots. C'est un grand théologien de libération qui a beaucoup écrit, qui a gagné tellement d'argent avec ses livres qu'il a acheté une piscine et qui s'est marié. Il était franciscain capucin. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est des exemples concrets. Moi, je suis vraiment désolé, c'est pour moi, c'est des cas évidents qu'il n'y a pas de contemplation. Ils ont écrit des choses qui pouvaient être très belles, moi je discute pas ces bouquins. Mais quand on est contemplatif, on ne finit pas dans une piscine avec une femme. Non. Normalement, on peut s'en passer. Et de la piscine et de la femme, parce qu'on vit avec Dieu. Ça, c'est de la théologie crue. C'est Salomon qui dit que le commerce avec la sagesse est plus désirable que le commerce avec une femme. Il savait de quoi il parlait puisqu'il avait 700 concubines. Dit-on. Bon. Alors, vous voyez, bon, là j'ai cité deux noms, deux grands théologiens qui ont mal fini, entre guillemets. Enfin, mal fini, pas dire que Dieu ne les a pas rattrapés, il ne sait rien. Mais en tout cas, qui n'ont pas porté le fruit qu'ils auraient pu porter s'ils s'étaient enfoncés dans la contemplation. Mais, si vous regardez de manière plus générale, vous voyez, un siècle qui s'est collectivement éloigné de la contemplation, le 18e siècle, en même temps, un siècle où on voit l'impureté, pensez à Sade, Marquis de Sade, mais pensez surtout au libertinage, et la perversion des mœurs de l'aristocratie française du XVIIIe siècle, dont Sade est la partie visible de l'iceberg. Et ça, à cause de quoi ? Faute de contemplation. Contemplation, ce n'est pas du luxe. Même il est fait pour vivre de Dieu. Il est fait pour vivre de la connaissance de Dieu. Et s'il ne touche pas Dieu, ben, il cherche à toucher autre chose. mais la manière dont il touche les êtres, s'il n'est pas lui-même touché par Dieu, il n'est pas pur. Écoutez les choses simplement. Alors, conclusion. Par rapport au chemin de la sagesse, on va essayer de suivre l'indication que donne Jésus. Indication claire. Celui qui aime les commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Alors, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ici, c'est l'amour qui cherche à plaire à Dieu, parce qu'il est aimé plus que soi, et donc on lui obéit, mais par amour. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il nous a donné la vie, parce qu'il est la beauté, la vérité même. Parce qu'il est Dieu, on ne peut pas expliquer ça. Parce qu'on l'adore, dans l'amour. Il n'y a que lui qui peut nous demander une obéissance absolue, totale. La première manière de l'aimer, de fait, c'est de lui faire une confiance totale qui signifie en même temps une obéissance totale et un oubli total de nous-mêmes, dans l'abandon, à sa sainte volonté. Donc Jésus dit bien, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Pour moi, dit Jésus, c'est le critère. Ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas celui qui chante des cantiques toute la journée. Ce n'est pas celui qui va se fourrer dans les églises toute la journée. C'est celui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez, ici, il fait passer l'amour-obéissance en premier. Alors, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je serai touché par sa fidélité. Serviteur bon et fidèle. Serviteur bon est-il fidèle? Tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton être. Je me manifesterai à lui, entre dans la joie de ton maître. Tu as servi un maître, maintenant tu rencontres un époux. Et tu trouves la joie. Vous appelez plus serviteur et mes amis. Mais voyez, il y a un temps où Dieu comme éprouve la vérité de notre amour. Tu me dis que tu m'aimes. Est-ce que tu acceptes de faire ma volonté plus que la tienne? Alors, si tu acceptes de faire ma volonté, bien écoute, je vais te conduire, on va voir. Tu dis que tu veux faire ma volonté, bon, on va voir quand même. Hein. Prends le temps de voir. Je vais prouver ton amour. Parce que c'est bien de me dire oui, je veux faire ta volonté, mais est-ce que tu la fais vraiment? Écoute, on va voir. Alors, ça se passe comment? Ça se passe jour après jour. Hein. Il y a les épreuves de la vie, il y a les contradictions. Il y a tout ce qui fait que les choses ne se passent pas comme on aurait aimé. Est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on se révolte? Les commandements, des fois il y a des commandements de Dieu qui nous semblent contradictoires avec notre bonheur humain. Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on les garde? Vous voyez, c'est un peu, si vous voulez, comme un fiancé qui ne serait pas entièrement sûr de la que sa fiancée, une fois mariée, sera fidèle. C'est le coup classique, hein, de l'homme qui est fiancé et puis qui trouve sa fiancée avec quelqu'un d'autre dans le lit, habituellement, l'homme en question, il ne se marie pas. Ils n'aiment pas trop ça, les hommes. Les femmes non plus d'ailleurs, mais... mais j'ai remarqué que les hommes particulièrement, ils n'aimaient pas ça. Bon. Et donc, généralement, avant de se marier, on essaie de voir quand même si l'autre, il tient la rampe, quoi, si ça peut durer. Parce qu'après, une fois qu'on a mis l'anneau, quand même, c'est pour la vie. Mais on voit bien cette image des fiançailles dans la mystique. Dieu ne se manifeste pas, il ne donne pas la sagesse, il ne donne pas la contemplation intuitive tout de suite, comme ça, c'est pas possible. Notre vie sur terre est une épreuve. Abstraction faite du fait que nous sommes pécheurs. De toute façon, la vie sur terre aurait été une épreuve. Le temps qui nous est donné pour choisir Dieu plus que nous-mêmes. Préférer Dieu à nous-mêmes. Donc il nous est donné pour nous livrer à Dieu, comme lui s'est livré à nous. Donc il ne faut pas être étonné que cette vie soit éprouvante. Qu'est-ce que tu cherches au juste, ta gloire ou la mienne? Qui tu cherches, toi ou moi? Tu te cherches toi-même ou tu me cherches? Tout ça, ça se décide, ça se purifie, parce qu'on a le cœur partagé en fait. Un peu moi, un peu Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix, ce renoncement à soi est nécessaire pour l'extase. Comment se perdre en Dieu si on n'accepte pas de renoncer à soi-même dans le quotidien de la vie? On pourrait aussi dire les choses comme ça. Que la vérité, Jésus, Christ est la vérité. La vérité se donne à ceux qui l'aiment vraiment. Au lieu de parler de sagesse et de contemplation, on parle de vérité ici. La vérité se donne à ceux qui l'aiment vraiment. L'amour de la vérité. C'est quoi l'amour de la vérité? Qui aime vraiment la vérité? Celui qui amasse des connaissances parce qu'il se délecte dedans? Ou celui qui poursuit la justice, qui a faim et soif de la justice. Écoutez le Siracide, Siracide 4, 28. Jusqu'à la mort, lutte pour la vérité. Le Seigneur Dieu combattra pour toi. Et écoutez encore le Siracide, chapitre 51. C'est ainsi qu'il a trouvé la sagesse, qui nous appelle à suivre le chemin qu'il a suivi. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur ainsi? Dans ma jeunesse, j'ai cherché ouvertement la sagesse dans la prière. À la porte du sanctuaire, je l'appréciais, comme c'est bien dit. Il n'était pas dans le sanctuaire, mais à la porte. Il n'était pas encore rentré dans l'intimité de Dieu, mais il l'appréciait déjà. La désirer. Et jusqu'à mon dernier jour, je la poursuivrai. Plus on connaît Dieu en vérité, et plus on cherche à le connaître. Mon cœur mettait sa joie en elle. Mon pied s'est avancé dans le droit chemin. Oui. Mon cœur la désirait. Elle mettait déjà sa joie en elle. Mais mon pied, mes actions, le pied c'est l'action concrète, c'est avancer dans le droit chemin. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice de Jésus. Il n'est pas dit bienheureux ceux qui ont faim et soif du savoir, mais faim et soif de la justice qu'ils mettent en œuvre. On ne veut pas séparer la recherche du royaume de Dieu de la recherche de la justice. Bienheureux, hein, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire, cette vérité que je cherche, elle demande à être mise en pratique. Ici, nous découvrons un principe important. C'est que dans la croissance de la connaissance de Dieu, à partir du moment où Dieu me donne une lumière, je dois mettre en pratique cette lumière si je veux la lumière suivante. La vérité, elle est faite pour être faite. On trouve l'expression, c'est Saint Jean, faire la vérité. Ce n'est pas simplement la connaître, la vérité, mais on la fait. On a besoin de faire la vérité pour la connaître. On a besoin aussi de connaître la vérité pour la faire. Mais ça marche dans les deux sens. Vous voyez ? Celui qui dit, bon, moi j'ai besoin de connaître pour faire, et donc je vais d'abord lire plein de livres sur la contemplation, la sagesse, sur Dieu, tout ça, et une fois que je serai au point, ben, je pourrai faire. Je rentrerai dans la pratique parce que j'aurai compris le programme. Ça ne marche pas. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune prêtre, j'avais cette illusion-là. Je me disais, je vais bien bosser les mystiques, comme ça je connaîtrai le chemin. Puis après, il n'y aura plus qu'à suivre, comme vous avez un plan, une carte, vous avez tout le chemin devant vos yeux, et hop, après, il ne reste plus qu'à prendre la voiture, et puis vous connaissez. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Pas possible. Dieu ne se laisse pas mettre en plan. Ça marche comment, là? Ça marche que il me donne une petite lumière. La petite lumière qu'il me donne, on sent qu'elle nous titille sur un point de notre vie. Par exemple, Dieu nous dit, moi je suis ami des hommes. Il le dit dans le livre de la sagesse. Dieu est ami des hommes. Ah. Dieu est ami des hommes. Ah. Peut-être que je serai un peu plus bienveillant pour les autres. Si Dieu est ami des hommes, je peux même pas trop regarder l'autre comme un ennemi. C'est un ami de Dieu. Si Dieu est ami, ça me titille, vous voyez. C'est une première lumière que j'ai sur qui est Dieu, est ami des hommes. Si je dis simplement bon, Dieu est ami des hommes, c'est intéressant. Est-ce qu'il est ami des animaux aussi? Là, je suis dans la spéculation. C'est intéressant. Non, je me laisse toucher par la vérité. Après, si je commence à mettre en pratique, c'est-à-dire je commence à essayer de changer mon regard sur les autres, à me convertir. Parce que normalement, en connaissant Dieu, on se connaît mieux soi-même, on se voit en vérité face à Dieu qui est bon, on voit qu'on est mauvais. Et donc, on a envie de devenir bon, si on l'aime. Donc, on se convertit normalement. Mais si on étouffe l'appel à la conversion, qu'on cherche simplement à connaître, on connaît plus, en disant par exemple un beau livre de spirituel sur l'amour de Dieu pour les hommes, quand c'est beau, c'est intéressant, je vais en lire un autre, un troisième. Eh bien, terminez les lumières. Ah, Dieu, non, il n'aura pas là-dedans. Non seulement on n'aura pas la lumière suivante, mais on va perdre la lumière qu'on a reçue au départ. Écoutez le cirassier. Mon cœur était sa journée, mon pied s'est avancé dans le grand chemin. Alors, j'ai beaucoup progressé, j'ai progressé, car j'ai décidé de la mettre en pratique. Ah, j'ai décidé de mettre la sagesse en pratique. Et c'est en la mettant en pratique qu'on la comprend mieux, qu'on rentre mieux en elle. C'est en faisant la vérité qu'on la connaît davantage. Alors ici, je vous cite Benoît XVI, connaître pour vivre et vivre pour connaître. Expression qui m'a bien éclairé. On a besoin de connaître pour vivre, on a besoin de la sagesse pour voir dans la lumière, pour voir dans quel sens avancer. C'est évident qu'on a besoin de connaître la vérité pour la faire. Mais connaître pour vivre, mais aussi vivre pour connaître. Écoutez, le témoignage d'un grand théologien. Père Thomas Philippe, qui était un des bras droits de Pie XII, avec Arrigo Lagrange, au niveau théologique, c'était une des sommités romaines dans les années 50. Il s'est trouvé qu'il y a eu une polémique, il y a eu une affaire, il y a eu un procès. Il s'est fait des ennemis par excès de zèle, on va dire. C'est lui qui avait fait condamner Congar avant le concile, pour certaines idées de Congar qui n'étaient de fait pas tout à fait orthodoxes. Mais enfin, il l'a fait malgré lui, d'ailleurs, ça lui a été demandé. Il a fait le boulot ingrat de grand inquisiteur. Le problème, c'est que devant le tourner, Thomas était mis à l'écart. Il n'a plus pu enseigner et il a été privé du ministère pendant plus d'une dizaine d'années, je crois même une quinzaine d'années. Et puis ensuite il a atterri à Trolibreuil et c'est là qu'est née l'Arche avec Jean Vanier qui était un de ses fils spirituels. C'est lui qui a appelé Jean Vanier à Trolibreuil parce qu'il Père Thomas s'était retrouvé aumônier d'un hôpital psychiatrique, d'une clinique, lui qui était donc une des plus grandes têtes pensantes de l'Église catholique. Et il avait comme auditoire des handicapés mentaux. Bon, c'est Dieu qui, éprouve ce qu'il aime. Alors écoutez Père Thomas, qui dans son texte sur la passion de Jésus, parle de lui-même sans vouloir le dire. Jésus demande à ses amis de prédilection de partager la vie de Marie. Parfois, c'est sous l'impulsion de la grâce que d'eux-mêmes, qu'ils ont d'eux-mêmes choisi une vie de solitude et d'humilité. Quand il arrive à Trois-les-Bois, il s'est retrouvé seul. La seule personne qui a bien voulu l'accueillir, c'était la folle du village. Je l'ai vue moi-même, cette femme. Donc, Père Thomas est arrivé, il a pris une chambre et disait la messe dans sa chambre, avec la folle du village qui était dans la maison. Parfois, c'est sous l'impulsion de la grâce qu'ils ont d'eux-mêmes choisi cette vie de solitude et d'humilité. Mais bien souvent aussi, ce sont la maladie, les défauts extérieurs, des imprudences, peut-être venues d'un zèle intempestif. Thomas, il a fait ce qu'on lui avait demandé, qui les ont contraints de se retirer de la vie publique, ça c'est sûr, et leur ont donné la béatitude de la solitude. Après un temps de vie publique, il arrive que des événements providentiels les arrachent à la foule pour les précipiter dans la retraite. Un village perdu tout près de la forêt de Compiègne. De même, ils n'auraient peut-être pas eu le courage de se retirer au désert. Et Jésus, dans sa miséricorde, s'est servi de leurs défauts et de tous les malentendus qui en résultent. Qu'est-ce qu'il y a comme souffrance derrière ça? Pour le maintenir loin des charges, les garder peut-être dans un état de suspicion si rude à l'esprit humain qui a tant besoin d'estime, et pour les mettre dans la bienheureuse obligation de se rejeter vers Jésus seul. Je m'arrête là. Se rejeter vers Jésus seul. Des plus grands théologiens du XXe siècle, de Cassinette, et qui comprend que, en fait, il avait besoin de ça pour se rejeter vers Jésus seul. Mais la vraie contemplation, elle est dans se rejeter vers Jésus seul. Simple regard vers Jésus seul. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre, dit saint Paul. À cause de lui, le Christ a accepté de tout faire. Je considère tout comme déchet à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus. Et donc, le grain de blé est mort, tombé en terre, il est mort, il a produit beaucoup de fruits puisqu'il a produit l'arche. Mais il y a eu un moment où le Père Thomas, un moment qui a duré longtemps, je veux dire entre 10 et 15 ans, hein, où le Père Thomas, eh bien, il n'y avait plus que Jésus. Là, il était devenu un vrai contemplatif. Avant, il avait évidemment une vie contemplative. Mais il était un contemplatif un peu spéculatif. Il faisait des retraites sur la contemplation comme moi je fais des cours sur la sagesse. Et le Seigneur lui a arraché ça. Pour le garder pour lui uniquement. Alors, retenez bien ça, que dans notre vie, la vie de notre intelligence n'est pas séparable de notre vie pratique. Ceux qui s'enferment dans des bibliothèques ont tort, se trompent. À moins que ce soit leur devoir d'État. Si c'est dans l'obéissance à leur supérieur qu'on les oblige à être bibliothécaire, par exemple, il n'y a pas de problème. Mais si c'est par goût qu'ils s'enferment dans les bibliothèques, et qu'il néglige, par exemple, la vie fraternelle, je vais vous donner un exemple très concret. J'ai expérimenté plusieurs fois, vous voyez, que dans la préparation d'un cours, d'un enseignement, si j'accepte de lâcher ma réflexion pour répondre sur le téléphone, soit un appel à l'église, il y a quelqu'un qui demande, qui voudrait se confesser, mais il ne peut pas aller voir un autre prêtre, mais il faut que je prépare mon cours, il y a quelqu'un qui, il faut s'occuper de tel colis qui arrive, qu'il faut signer, machin, tout ça. Il y a des trucs, hein, en paroisse, mais, on ne s'ennuie pas. Eh bien, si je le fais dans un esprit, vous voyez, d'obéissance à Dieu, ben, j'ai des lumières ensuite quand je reprends le travail. C'est tout bête, c'est à ce niveau-là. Ta docilité te vaudra l'intelligence, dit le Cyrisien. Ta docilité te vaudra l'intelligence. Mais ces lumières, c'est pour tout. Vous voyez, vous avez besoin de lumière, vous savez, mais qu'est-ce que je vais dire à telle personne? Qu'est-ce que je vais faire dans telle situation? Laissons-nous guider par Dieu. Laissons-nous guider par Dieu, il nous propose de faire des choses qui n'ont rien à voir apparemment avec ce que nous recherchons. Mais il nous dit, bon, ben, écoute, voilà, la lumière je te donnerai, mais est-ce que tu veux d'abord me servir, faire ma volonté? Voilà, je te demande de faire ça. Voilà, ben, écoute, c'est celui qui m'aime, c'est celui qui garde mon commandement, bon, tu fais des trucs, mais après, j'ai pas le temps de faire de mon travail intellectuel. Oui, mais écoute, savoir qui tu es. Je dis ça, c'est parce que, par exemple, moi pour l'instant, je n'ai pas eu la tentation d'écrire un livre. Mais tout simplement parce que, de toute façon, je n'ai pas l'inspiration. Alors, ça ne sert à rien de vouloir écrire un livre si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est complètement idiot. Il n'y aura pas de lumière. Non, j'en sens pas l'inspiration. Les gens me disent, mais pourquoi vous n'écrivez pas un livre? Ça fait des années qu'il y en a qui me disent, je veux un livre parce que je n'ai pas l'inspiration, c'est tout. Je n'ai pas demandé à Dieu qu'il me donne des lumières par rapport à un livre qu'il ne veut pas. Parce que ce n'est pas le genre de Dieu de donner des lumières quand on est à côté de la plaque. Donne des lumières quand on est sur son chemin, si on prend un autre chemin. Si nous donnait des lumières sur un faux chemin, il serait franchement pas bon. Parce qu'on continuerait à courir sur le faux chemin. Donc, si on avance dans un faux chemin, on voit du noir, on se dit, bon, c'est le faux chemin. Bon. Alors, tout nous dit la même chose. Je vous cite Isaïe 53, 11, le chant du serviteur souffrant. Suite à l'épreuve endurée par son âme, le juste, mon serviteur, verra la lumière et sera comblé. Il y a l'obéissance au commandement. Adhérer, chercher d'abord le désir de Dieu. Plus que mon désir à moi. M'ajuster à Dieu. Le juste mon serviteur. Celui qui cherche d'abord ma volonté. Il verra la lumière suite à l'épreuve endurée par son âme. La vie tout entière est une épreuve. Mais ici, l'épreuve prend un sens, pas simplement d'épreuve par rapport à un commandement qu'on garde ou on ne garde pas. Donc tous les commandements de Dieu sont des lieux d'épreuve. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne garde pas le commandement? Mais ici, l'épreuve, c'est dans le champ du serviteur souffrant, c'est la croix. L'épreuve ne dit pas nécessairement croire, au sens où il n'y a pas nécessairement la souffrance. Et quand on dit croire, on veut dire plutôt une épreuve un peu douloureuse. Alors ici, il faut comprendre que cet aspect de la souffrance, suite à l'épreuve endurée par son âme, cet aspect de la souffrance, on sent bien qu'il est lié à un chemin de purification, une purification douloureuse. Mais d'une manière générale, vous voyez, ici je parle pas simplement en fonction de ma propre vie, qui reste limitée, hein, mais en fonction de toutes les confidences que j'ai reçues pendant 10 ans comme aumônier à l'hôpital. D'une manière générale, c'est quand même dans les grandes épreuves de la vie qu'on reçoit les grandes lumières. Tout dépend aussi de la manière dont on réagit à l'épreuve. Mais si on se laisse un temps soit peu faire, au lieu de se révolter, de se bloquer, de se refermer sur soi, de se refermer sur sa souffrance, si on se laisse un temps soit peu faire, où mon Dieu se contente de peu, ça met un peu d'abandon, il y a la lumière qui vient. Ça, c'est un fait d'observation tout simple. Ce qui m'a beaucoup frappé en tant qu'aumônier à l'hôpital, c'est que voir même des personnes non croyantes recevaient des lumières sur leur vie. Là où elles étaient, Dieu les rejoignait, les éclairait. Pour leur donner de voir leur vie passer dans une lumière nouvelle, de reconnaître leur faute alors qu'avant elles étaient aveuglées. Et aussi, plus encore, de comprendre l'essentiel, enfin de comprendre, de percevoir l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que vous avez tous l'expérience d'avoir accompagné des malades, j'espère, hein, que vous avez pu vivre ce service d'accompagner des malades. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la personne qui est malade, elle manifeste une sensibilité à la communion, une sensibilité à l'authenticité de l'amour, de la relation, à la qualité de l'écoute, de la présence, qu'on n'a pas habituellement dans la vie du monde. Fortiori quand c'est une personne mourante. Et quand c'est une personne, vous voyez, qui, comme la petite Philippine, dont vous voyez la photo là, est polyhandicapée et donc qui elle souffre continuellement, bien, elle est aveugle. Et quand sa mère lui donne à manger, tout en faisant autre chose, en écoutant autre chose, parce qu'elle est très prise, la petite elle mange pas. Pourtant elle ne voit pas ce que fait sa mère. Pour qu'elle puisse manger, accepter de manger, il faut que sa mère soit totalement présente à elle. Ça, c'est le cœur. Elle se nourrit d'abord de la communion avec sa maman. Là où il n'y a pas la communion avec sa maman, ça lui coupe l'appétit. Pour dire les choses en termes simples. Parce que sa première nourriture, c'est cette communion avec sa mère. Sa mère ne lui donne pas cette communion, mais elle n'arrive pas à se nourrir d'autre chose. Eh bien, les personnes mourantes ont une sensibilité proche de celle-là. C'est tout qui s'aiguise hein, au niveau du cœur, qui est touché à travers l'épreuve. C'est le cœur qui est à vif, Et il y a une sorte de l'intelligence du cœur nouvelle qui s'ouvre, voyez, et qui fait que les personnes malades, enfin, quand je dis malade, c'est une maladie qui les atteint en profondeur, c'est pas la personne qui s'est cassée la jambe et qui va remarcher bientôt et qui est juste dans l'hôpital en train de regarder la télévision. Non. Mais c'est la personne qui est atteinte en profondeur. Bien, celle-là, elle est, si on peut dire, naturellement disposée, enfin, en réalité surnaturellement disposée, parce que Jésus est présent, et la purifie par sa passion, il y a une grâce de purification qui est donnée, et elle s'ouvre à des lumières nouvelles. Donc, comme je disais, pas simplement par rapport à la vérité de sa vie, par rapport à ses défauts, par rapport à ce qu'il y a besoin d'être purifié en elle, mais elle s'ouvre à des lumières nouvelles quant au sens de la vie. Ça, c'est un beaucoup fort. Perception du sens de la vie, du vrai sens de la vie, notamment du primat de l'amour, du primat de la communion. Que d'hommes j'ai entendu dire leur souffrance de voir qu'ils s'étaient laissés prendre par les choses. Et des hommes de 60 ans qui se retrouvent avec un cancer du poumon, laissés prendre par des choses au lieu d'être présents aux personnes. Prendre conscience qu'on n'a qu'une vie pour aimer et que seul l'amour compte, on le sait dans sa tête, c'est un aperçu de l'éducation chrétienne, mais le voir, c'est autre chose. Il y a des choses dont on est convaincu par lecture, et puis il y a un moment où on voit. C'est plus de la. C'est plus une belle idée. C'est une évidence lumineuse donnée par Dieu. Mais qui est douloureuse, parce qu'on voit sa vie à la lumière de ça, de cette vérité-là que l'on perçoit. Alors, là où on voit que la sagesse, parce que ça c'est la sagesse, ça c'est la vraie sagesse, vous voyez. C'est pas la sagesse en bouquin. Là où on voit que la contemplation, la vraie contemplation, ça ne se laisse pas saisir, c'est que quelquefois, donc des personnes qui ont été à la porte de la mort voyaient les choses d'une autre manière, ou en tout cas qui ont vraiment vécu une longue et profonde souffrance de l'épreuve de la maladie. Bon, elles sortent de l'hôpital, il y en a donc qui retrouvent une vie normale. Elles ont reçu des lumières, mais elles ne se sont pas vraiment décidées à les mettre en pratique. Elles ne se sont pas vraiment décidées à corriger les choses de leur vie. Elles se sont laissées reprendre par leurs activités du passé. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de revoir quelquefois ces gens 6 mois après. Ils avaient perdu ces lumières. La sagesse, ça se met en pratique. Si on ne la met pas en pratique, il peut rester un vague souvenir. On a vécu une expérience très forte à l'hôpital. Mais on a perdu la lumière. On peut se rappeler intellectuellement, oui, qu'on a pensé des choses très belles sur le sens de la vie. Oui, c'est intéressant. Le sens de la vie, c'est une question intéressante. D'ailleurs, je vais suivre un cours sur le sens de la vie. Suivre un cours sur le sens de la vie, si tu veux. Mais, encore une fois, la lumière, les vraies lumières qui font vivre, elles demandent à être vécues pour s'approfondir. Il y a un moment où notre liberté doit s'engager. Est-ce que tu veux te convertir face à cette lumière? La lumière qui appelle, c'est la vérité qui appelle. Alors, par rapport... J'ai donné en vous donnant quand même un peu de culture générale sur la théologie mystique qui vous intéresse, vous sortir de là, vous aurez appris des choses. Si on regarde, voyez, cette question de la sagesse, sous l'angle des purifications, on distingue la purification des sens, qui correspondrait à une purification de l'affectivité, qui est le plus long, c'est le gros morceau. Purification des relations affectives, amoureuses, la sexualité, tout le paquet. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à père, mère, femme, enfant, maison, chambre. Ça, c'est par rapport à l'esprit de possession. La personne qui elle plonge, Dans la vie mystique, c'est un peu ça. La personne, elle plonge en Dieu, elle ne voit plus, elle se voit plus elle-même, déjà elle se perd. Donc elle est dans l'ignorance elle-même. Elle est perdue en Dieu. Et si on lui dit qu'elle vit une vie mystique, elle dira « Ah, non, c'est possible. » Non, au fond d'elle-même, elle le sait. Mais c'est une connaissance à laquelle elle n'a pas accès. Dieu peut lui donner des lumières sur elle-même. Mais en fait, elle est totalement décentrée d'elle-même. Elle s'est perdue elle-même. Donc elle ne pense plus à elle-même. Elle ne se regarde plus elle-même. Je me dis ça en pensant à la réaction des personnes qui étaient plongées dans la mystique. Alors je lisais un article qui parlait justement de cette plongée dans la mystique. Alors je lui dis ça, je dis, mais c'est bien ce que vous avez vécu. Elle dit, oui, oui, c'est sûrement. Oui, ben, oui, ça a l'air d'être ça, oui. Je dis, ben, c'est tout ce que ça vous fait comme effet. Ouais, parce que on lui aurait parlé d'une autre personne, ça aurait fait le même effet. Parce que c'est. Elle ne se réjouissait pas d'avoir une vie mystique, elle se réjouissait de Dieu, c'est tout. Vous rendez compte d'une vie où on cesserait de penser à soi. On cesserait de se dire comment je suis, est-ce que je suis bien aujourd'hui, est-ce que je suis dans l'amour ou pas, est-ce que j'aime Dieu, est-ce que j'aime les autres, est-ce que je suis humble ou précieux, je. Mais ça, vous voyez, c'est le contact, c'est l'ultime sagesse qui prépare ultimement la vie du ciel, enfin libéré de cette chose encombrante qui s'appelle moi. Pour ne plus vivre que dans un pur regard de Dieu. Et c'est dans ce pur regard de Dieu que nous nous trouvons nous-mêmes, que nous trouvons notre vraie personne, qui a été créée par Dieu, pour vivre éternellement de Dieu, dans ce simple et pur regard d'amour vers Dieu, qui lui-même est pur regard.